Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle l'éternel féminin, la féminité.
Simone de Beauvoir disait « compétence et intelligence, deux mots sans sexe ». Elles sont au sommet du savoir et pourtant les femmes ont toujours du mal à le faire savoir. Manque d'audace, de confiance en soi, sentiment d'illégitimité et parfois, il faut bien l'avouer, femmes oubliées. Je m'appelle Christelle Chiroux et je me bats pour aller les chercher. Elles sont scientifiques, médecins, économistes, sportives, avocates ou historiennes. Elles sont là et bien là. Elles ont des parcours impressionnants et passionnants. J'ai décidé dans ce podcast d'amplifier leur voix. À les écouter, vous ne pourrez plus les oublier. Bienvenue dans Expertes à la Une.
Bonjour Chloé Charles, je suis dans votre cour.
Bonjour.
Eh bien voilà, bonjour,
bienvenue.
Nous y sommes. Merci.
Bah oui. Bienvenue à la maison.
Merci. Ah bah, il y a effectivement de la vaisselle dès l'entrée.
Oui, de la vaisselle à l'entrée, plein de livres de cuisine aussi, des conserves, plein de trucs, plein de bazar. Moi j'aime bien le petit bazar de cuisine.
Et si je m'invite chez vous à midi, vous me proposez quoi? Il y a quoi dans le frigo aujourd'hui?
Ah, j'ai fait une... Elle est en train de refroidir, là, mais j'ai fait une carbonade. Donc, c'est de la joue de bœuf qui est cuite dans de la bière. Et j'ai pas encore préparé le reste, mais je pense que je vais faire des... J'ai des petites pommes de terre à sauter, là, ou... Je voulais peut-être faire des pâtes fraîches.
Et ça, c'est pour vous? Ça, c'est votre déjeuner?
Ouais, c'est pour moi et mon épouse.
Elle se cache. Elle se cache derrière la porte. Bonjour.
Bonjour.
Enchantée. On se cache. Alors vous, vous n'êtes pas du tout dans la cuisine.
Non, moi je suis en salle. En sommellerie. Mais pour l'instant, je suis en congé maternité. Mais non, bah nous, on a la plus belle la plus belle des annonces qui arrive en 2020, donc ça va. Ça remonte le moral.
6 décembre 2020. Voici la plus belle des annonces. Olga vient d'arriver. Un bébé qui, à n'en pas douter, sera nourri sainement. Chloé Charles, 34 ans, le revendique. Sa cuisine est éco-responsable, durable et humaine. Une cuisine engagée qui n'a pas de place pour le produit gaspillé.
Chloé Charles, merci de m'accueillir dans votre appartement du 20e arrondissement. Vous êtes une jeune chef de cuisine, vous êtes une experte dans votre domaine. C'est quoi ? Une experte, selon vous, comment vous définiriez l'experte en cuisine ?
L'expertise, c'est d'avoir travaillé suffisamment longtemps pour avoir un panel de situations et d'expériences qui font qu'on est capable de trouver des solutions rapidement à peu près tout problème. Après, moi, je ne sais pas si je suis une experte parce que je pense que c'est un métier... la cuisine, c'est un métier où on apprend tout le temps. Où je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que je sais que je vais apprendre jusqu'à la fin de ma carrière, et même encore après, et qu'on peut apprendre de n'importe qui. On peut apprendre aussi bien d'un ou une apprentie qui démarre la cuisine à 15 ans que d'un chef de 70 ans. En fait, il y a différents niveaux de connaissances chez ces deux personnes-là, mais ils peuvent quand même nous apprendre quelque chose, donc je trouve que c'est un métier où on apprend sans cesse et on se perfectionne sans cesse, et puis c'est un métier manuel, donc plus on reproduit des gestes, plus on est doué à les reproduire et plus on a de la dextérité.
Vous étiez qui lorsque vous étiez une petite fille, Chloé Charles?
Lorsque j'étais une petite fille, déjà j'étais une grande gourmande. J'ai vraiment commencé à aimer la cuisine parce que j'aimais manger. Et voilà. Et je pense qu'il y a, enfin, toutes les personnes de mon entourage proche, que ça soit des amis ou de la famille, je suis toujours la plus grande gourmande, et ils ont tous une anecdote particulière d'échange, de goûter à la maternelle, de manger la pâte à sel, de de pâte à pain chez ma grand-mère. Enfin, voilà, moi, c'est mon domaine, c'était vraiment manger. Il y a un peu que ça qui m'intéresse depuis que je suis petite, quoi. C'est encore le cas aujourd'hui.
Alors, votre grand-mère, qui est en Bretagne, c'est elle qui vous a donné un peu le goût de vous mettre derrière les fourneaux lorsque vous étiez enfant ?
Ma grand-mère, on va dire que... ma grand-mère et... Enfin, mon grand-père et ma grand-mère ont eu 6 enfants, donc 6 filles. Donc forcément, ça a donné une très, très grande fratrie qu'il faut nourrir. Aujourd'hui, les petits-enfants, les maris et femmes des petits-enfants et les arrière-petits-enfants, on est 45. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde il faut cuisiner pour tous ces gens-là. Et c'est vrai que, moi j'adorais cuisiner avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Mon grand-père avait réhabilité le four à pain, donc on faisait du pain pour tout le monde. Derrière, on utilisait la chaleur du four pour cuisiner. Mais c'était vraiment pas du tout. J'ai jamais imaginé ça de manière professionnelle. Pour moi, c'était vraiment un loisir et un bon moment de vacances passées en famille. J'avais jamais imaginé que ça pouvait être un métier lorsque j'étais petite.
On pourrait imaginer que vous avez grandi en Bretagne. En fait, pas du tout. Vous êtes une vraie Parisienne.
J'ai pas du tout grandi en Bretagne, ça c'est sûr. Et ma grand-mère est une Parisienne d'adoption qui a déménagé de la banlieue parisienne pour la Bretagne à la retraite. Et non, je suis une vraie Parisienne, une vraie de vraie, comme il y en a, ça existe. Je trouve ça chouette aussi d'être une citadine, et c'est pas parce qu'on est une citadine qu'on peut pas aimer justement la cuisine, des beaux produits, je suis pas seulement quelqu'un d'ultra speed qui court partout et qui va travailler à la Défense, quoi.
Vous avez grandi dans le 6e arrondissement.
C'est ça.
Ils faisaient quoi, vos parents ?
Mes parents...
Ils font quoi ?
Mes parents, actuellement, là, ils sont à la retraite depuis un an et demi, à peu près. Mais ils faisaient quoi ? Ma mère faisait des objets publicitaires, mais plutôt de qualité. Et mon père travaillait pour elle, en fait. Et leur troisième employé à la fin de l'entreprise, c'était mon frère. Donc ma mère avait 2 employés, mon père et mon frère. Et une entreprise familiale, vu que mon grand-père était aussi faisait le même métier. J'ai une maman assez créative. Parce que c'était pas seulement mettre des marques sur des stylos. Elle crée vraiment des objets et des univers pour des marques de luxe, pour la grande épicerie et le bon marché à Paris, où elle a lancé toute la gamme d'objets assez beaux. Vraiment à la recherche aussi de pouvoir produire au maximum ces objets en Europe. Avec des belles matières et voilà, que ce soit pas seulement du toc et un objet qu'on garde pas.
Et vous, cette envie de faire de la cuisine, elle est arrivée à quel moment, puisque vous avez passé un bac littéraire, je crois ?
J'ai passé un bac littéraire, mais mon envie d'en faire mon métier est arrivée plutôt en troisième, parce qu'une fille de ma classe voulait faire ce métier-là. Quand la prof principale disait OK, qu'est-ce que tu fais après la troisième, est-ce que tu vas au lycée, est-ce que tu t'arrêtes, et elle a dit moi je vais faire un CAP traiteur, et je me suis dit mais en fait c'est un métier, je veux faire ce métier là, et c'est en fait j'ai réalisé que c'était un métier ce jour-là. Et donc j'en ai fait part à mes parents, qui m'ont demandé de passer d'abord un bac général. J'avais pas du tout envie de le passer, mais j'en avais complètement les capacités. Et surtout, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, pas à ce moment-là, mais j'ai grandi, la première partie de mon enfance, j'ai grandi en face de l'école Ferrandi, qui est l'école de cuisine, une école de cuisine très connue à Paris. Et en fait, on allait régulièrement avec mon père manger des chouquettes aux portes ouvertes tous les ans. C'est en mars, il y a les portes ouvertes. Et on peut aller justement visiter cette école qui est assez dingue, parce que Plus maintenant, maintenant il n'y a que de la cuisine, mais à l'époque il y avait aussi les métiers du cuir, l'ébénisterie, la tapisserie, la pâtisserie, la charcuterie, les poissonniers, les boulangers. Enfin, il y avait plein, c'était une école 13 métiers en fait. Donc c'était assez intéressant et assez chouette à voir quand on est petit.
Et vos parents étaient d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous leur avez dit, bah, finalement, c'est dans cette école-là, c'est un peu le Harvard de la gastronomie, cette école. Quand vous leur avez dit, c'est en face que je veux aller et que je veux faire mes études?
En fait, moi, j'ai pas trop... Certes, c'est une très bonne école et c'est un peu le Harvard de la gastronomie, mais à l'époque, c'était pas du tout... je voulais pas y aller parce que c'était soi-disant la meilleure école, mais surtout parce que, en fait, c'était celle que je connaissais et qui était à côté de chez moi. Que j'avais déjà visité, donc je trouvais ça chouette. Et puis je savais aussi que c'était effectivement une bonne école, mais voilà, pour moi c'était assez logique d'étudier dans mon quartier, quoi. Donc c'était pas un choix de je veux la meilleure école et la meilleure éducation culinaire possible. Après, je me suis donné les moyens de pouvoir entrer dans cette école-là, mais honnêtement, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui parce que c'était pas du tout un métier qui était prisé.
Il y avait très peu de filles aussi.
Il y avait très peu de filles. On était deux ou trois sur c'était des classes de 12 personnes, donc c'était des petites classes. Parce que pour avoir chacun un plan de travail dans une cuisine, on peut pas avoir des classes avec énormément d'élèves. Et c'est vrai qu'on était peu de filles. Après, ça, c'est pas pour moi. Ça, le genre n'a jamais été un sujet en fait. Ayant une famille où finalement le genre n'était pas un sujet, enfin, du côté de ma mère, le genre n'était pas un sujet vu qu'il y avait que des filles, il n'y avait pas de différence entre des garçons et des filles. Donc finalement, je me suis jamais interdit quoi que ce soit ou autorisé, je sais pas quoi. Enfin, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je peux faire ou pas faire en fonction de mon genre. Parce que... Et d'ailleurs, cette question de genre m'intéresse très peu, finalement.
Après l'école Ferrandi, vous allez faire vos armes dans des grands restaurants et avec des grands chefs de cuisine. Alors, quel est votre parcours? Que des étoilés?
J'ai un parcours... j'ai pas fait que des étoilés. J'ai appris la cuisine dans un bistrot déjà parce que je voulais justement vraiment apprendre la cuisine. Et au démarrage, la première année, en fait, on n'apprend pas... C'est pas vraiment la cuisine qu'on apprend. On apprend à tenir physiquement parce que c'est un vrai entraînement de rester debout 12 heures par jour avec de la... Enfin, il fait très chaud. On porte des charges lourdes. On est sans cesse sollicité. On a deux temps forts dans la journée avec les services qui demandent une concentration intense. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même physiquement le temps de prendre le rythme. Il faut vraiment prendre le temps de prendre le rythme. Et puis on apprend aussi à s'organiser. On apprend à comprendre comment est-ce que, dans quel sens on travaille pour être le plus efficace possible. On apprend à comprendre la mécanique d'un service. On apprend l'hygiène. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre en dehors de la cuisine pure. On apprend à tenir un couteau aussi, par exemple. C'est bête, mais je veux dire, apprendre la dextérité, c'est important. Au début, on n'est pas forcément capable d'être hyper habile avec cet objet dans les mains et puis même et plein d'autres objets. Donc voilà. Et à l'Épi du Pain, c'est vraiment un restaurant... c'est un des premiers restaurants, ce qu'on a appelé la bistronomie. Le mix entre bistrot et gastronomie où, en fait, il y avait des chefs qui essayaient de mettre en avant des produits et rendre la cuisine vraiment accessible à tous avec des prix qui étaient assez bas. Et ça a été très dur, mais je me suis vraiment éclaté là-bas. Et ensuite, comme j'ai fait l'école supérieure de cuisine française, en gros, c'était un petit peu la logique de se retrouver dans des restaurants étoilés. J'ai fait mon premier stage chez La Serre, qui est un 2 étoiles assez classique, où il y a des cuisiniers qui travaillent là depuis 25 ans. Il y a des plats emblématiques comme le pigeon André Malraux ou le canard à l'orange. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivée là-bas, le stagiaire qui était là juste avant avait remplacé au pied levé un chef de partie qui était au poisson. Donc, chef de partie poisson, ça veut dire qu'en gros, c'est celui qui est responsable de tout l'arrivage du poisson et de préparer les poissons. Donc, lever les filets pour avoir des poissons nickel chrome prêts à cuire, ouvrir les Saint-Jacques, décortiquer les homards et tout ça. Et c'est généralement quelque chose qui est réservé à des cuisiniers qui ont plusieurs années d'expérience de cuisine. Et donc moi je suis arrivé là, on m'a dit ok, ça a bien marché avec le stagiaire d'avant et donc du coup maintenant c'est ton tour. Et par contre le second m'a prévenu en me disant écoute, si ça fonctionne pas, je te mets direct aux amuse-bouches. Et ce qui n'est pas non plus une punition, mais c'était beaucoup beaucoup plus intéressant de justement passer 6 mois à faire uniquement du poisson. Comme je le disais au début, plus on répète un geste, plus on est habile. Donc j'ai vraiment passé 6 mois à m'occuper de poissons et je me suis éclaté. Et ensuite, j'ai fait un deuxième stage à l'Astrans, un peu par hasard, parce qu'il y a un des élèves de ma classe qui voulait aller à l'Astrans. Donc je connaissais pas ce restaurant-là qui à l'époque avait 2 étoiles et donc je me suis un peu renseignée et je regarde un peu ce qui se passe sur ce, enfin quel est ce restaurant et puis là je me dis oh mince, le con il a chopé le meilleur stage, c'est exactement là qu'il faut aller. Et puis quelques semaines plus tard il dit non mais en fait moi je veux plus aller à la France, je veux aller ailleurs. Et donc je saute sur l'occasion et je dis bah moi la France c'est pour moi, je veux absolument y aller. Voilà, et du coup, j'arrive à l'Astrans, et une semaine après, ils avaient décroché leur 3e étoile, donc j'avais un peu chopé le stage qu'il fallait. Et puis là, j'ai passé 6 mois avec Pascal Barbeau, mais ça a foncièrement modifié ma manière de penser la cuisine, parce que j'ai travaillé auprès d'un chef ultra-pédagogue qui n'hésite pas à arrêter un service pour montrer une technique de cuisine ou alors à dire ok Chloé ils ont pris telle bouteille de vin, qu'est-ce qu'on leur fait en garniture, qu'est-ce que tu proposes pour associer un vin qui irait bien avec un petit peu des notes noires, artichaut, foie gras, dis-moi. Et donc du coup fallait trouver des idées en 30 secondes au milieu d'un service et moi j'avais 2 ans de cuisine et j'avais un chef 3 étoiles qui me proposait qui me demandait de trouver la garniture pour les clients. Donc c'est vrai que c'était assez passionnant. Et voilà, donc ça c'était toute ma partie un petit peu scolaire. Et puis après j'ai enchaîné, j'ai commencé à... Ma première expérience professionnelle, c'était chez Anne-Sophie Pic à Valence, parce que en fait j'avais déjà effectué un stage chez elle et puis je voulais continuer dans les 3 étoiles, mais en réalité ça s'est pas très bien passé. Parce que il y avait une équipe qui était assez compliquée où il y avait beaucoup beaucoup de compétitions, c'était une très grosse brigade et c'est vrai que moi j'aimais bien l'ambiance des petits restaurants où il n'y a pas trop de gens. Donc je suis partie.
C'est dur le monde de la cuisine.
Oui, c'est un monde qui est dur. Après, je crois que le monde professionnel, de manière générale, est quand même est dur de toute façon. C'est vrai que on a un milieu qui est voilà, où on est debout, il fait chaud, c'est assez tendu, donc du coup il est peut-être plus propice à encore plus d'énervement, on va dire. Moi c'est pas du tout quelque chose que je cautionne et je trouve ça, enfin c'est jamais intelligent en fait de gueuler. Ça veut dire que quand on gueule, ça veut dire qu'on n'est pas... comment dire, qu'en fait, on n'arrive pas à s'exprimer autrement et qu'on n'arrive pas à demander ce qu'on a envie de demander. C'est qu'on n'arrive pas à s'exprimer, en fait, quand on gueule. Pour moi, c'est pas très intelligent. Et puis, ce qui est un petit peu... ce que je trouve un peu dommage, c'est que... Enfin, il y a certains chefs qui ont oublié que... Il y a certains chefs qui ont oublié qu'on fait à manger à des gens et qu'on sauve pas des vies. On n'est pas sur une opération. Moi, j'ai une copine qui est urgentiste et qui était venue manger dans un des restaurants dans lesquels je travaillais et qui m'avait dit mais c'est dingue parce qu'en fait c'est plus tendu dans la cuisine que au service des urgences. Et elle sauve vraiment des vies et nous en fait on fait à manger à des gens, on leur donne du plaisir donc. Et puis de toute façon, en plus, pour donner du plaisir, il faut en avoir soi-même. Donc, moi, je comprends pas vraiment l'idée. C'est pas du tout comme ça que je pratique mon métier, quoi.
Vous avez une vision justement de la cuisine qui est différente. Vous êtes une chef de cuisine engagée. Vous travaillez beaucoup votre produit et vous êtes une chef de cuisine anti-gaspi. Mmh. Où est-ce que vous avez eu cet engagement ? À quel moment vous vous êtes dit, voilà, c'est ça la cuisine que je veux faire ?
En fait, c'est parti de plusieurs choses différentes. Déjà, moi, c'est la manière dont j'ai appris la cuisine à l'Épée du Pain, parce que... comme je disais, la bistronomie, c'était pour permettre d'avoir des tarifs accessibles à la plupart des gens. Et pour ce faire, il fallait utiliser 100% du produit. Donc déjà, moi, j'ai un chef qui m'a appris à utiliser 100% du produit, pas pour une histoire d'écologie, mais pour une histoire d'économie et pour pouvoir avoir un restaurant qui soit viable. Et c'est vrai que moi, du coup, c'est devenu vraiment un jeu de réussir à... à tout replacer et à utiliser les produits à 100%. Ça, c'est comme ça que j'ai appris la cuisine. Ça, c'est la première chose. C'est quelque chose que j'ai continué à expérimenter tout au long de mon parcours en cuisine, parce que finalement, certes, je le pousse à son maximum, ce concept, mais... En soi, c'est la cuisine. La cuisine, c'est quoi ? C'est l'art de transformer un produit. Et si on en oublie une partie de ce produit, finalement, moi, je trouve qu'on n'est pas un bon cuisinier vu qu'on n'a pas transformé la totalité du produit. Puis demander à des chefs ou aux femmes qui faisaient la cuisine il y a 70-80 ans, ils jetaient pas la moitié du produit à la poubelle, ou alors ils utilisaient la totalité. Donc ça, c'est déjà ça. Et puis après, en fait, quand l'équipe de Fulgurance m'a proposé de prendre la première place de chef à Fulgurance l'Adresse, qui est un restaurant dans le 11e, qui en gros permet à des anciens seconds de restaurants à ses côtés de prendre une première place de chef, ils m'ont demandé d'avoir un concept. Et qu'est-ce que je voulais faire comme menu en respectant un prix pour le menu. Et je me suis dit, ok, je vais proposer d'avoir une carte entrée, plat, dessert avec un choix à chaque fois, parce que j'avais pas envie de faire un menu dégustation. Mais ce qui m'embêtait, c'est que l'avantage du menu dégustation, c'est de pouvoir faire découvrir beaucoup plus de sa cuisine. Parce que quand on mange trois plats, on découvre trois façons de voir la cuisine d'un chef. Et puis quand on en mange six, c'est six façons. Et donc je me suis dit que j'allais servir un amuse-bouche, un entreplat et un pré-dessert réalisé uniquement à base des sous-parties des produits qui sont habituellement jetés en cuisine. Et que ça permettait aussi de faire passer un message, parce que déjà, un, c'était « Ok, on peut faire un plat avec toutes ces sous-parties ». Qui peut être très bon.
Un exemple ?
Par exemple, ça va être des... j'ai fait des feuilles de céleri frites avec une pâte à beignet réalisée à base d'eau de feta. Je faisais avec les entrailles, des sèches, je faisais ce que j'appelle des sauces entrailles, qui sont des sauces hyper bonnes, liées naturellement avec l'encre de sèche. Et du coup, je servais des côtes de chou-fleur sautées avec cette sauce. Je servais des têtes de poisson entières. Alors là, on sélectionnait un peu les clients, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas forcément envie de manger des têtes de poisson avec les doigts, et puis qui peuvent avoir un petit peu peur, mais voilà, j'avais zéro limite là-dedans, et plus le temps est passé, j'ai pris de liberté finalement, et ça m'a vraiment plu. Et puis surtout, la dernière chose, c'est que j'imagine pas faire mon métier, mais ça aurait pu être aussi un autre métier, sans avoir un minimum d'impact positif sur mon environnement tout court, et puis mon environnement social aussi. Enfin voilà, je suis une citoyenne qui vit en 2020, et je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, et j'ai envie de... Je sais que je peux faire passer des messages à travers ma cuisine, et du coup, j'ai envie de faire passer des messages.
C'est une façon d'adapter votre cuisine à la société d'aujourd'hui.
C'est ça, en fait, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer ce qui se passe, enfin, ce qui se passe au niveau environnemental. Et voilà, il faut, enfin, je suis obligée d'être une actrice et d'essayer au minimum de faire changer la manière dont les gens consomment. Et je trouve qu'on nous tape beaucoup sur les doigts. Et on a raison de le faire, mais que c'est aussi chouette de pouvoir passer un message positif à travers quelque chose de... Enfin, je veux dire, la cuisine, c'est positif, c'est bon, on prend du plaisir, on peut s'éclater en mangeant. Généralement, c'est un moment de partage et compagnie. Donc c'est vrai que si on peut faire passer un message en même temps en disant, bon, bah voilà, regarde ce que tu peux faire... Et c'est pas si compliqué, donc ça pourrait être à ton tour. Mais c'est si tu veux pas, tant pis, t'auras au moins passé un bon moment.
Chloé Charles, réaliser de la cuisine à l'économie, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes une écolo, que vous êtes une végétalienne, une végétarienne, une végane, et pourquoi pas un jour une grainiste.
Non, ça veut pas dire ça. Et puis ma cuisine, elle est... En fait, moi, je suis cuisinière, et après, on peut me connaître plein d'étiquettes, parce que je sais que les... On a besoin de définir exactement qui fait quoi et compagnie. Donc c'est souvent effectivement Chloé Charles, cuisinière écolo, zéro déchet et compagnie. Moi, ça me va parce que c'est vrai. Mais surtout, moi, avant tout, je suis cuisinière. Avant tout, je suis cuisinière et c'est... moi, ce qui me plaît, c'est cuisiner et faire plaisir aux gens... trouver des nouvelles techniques ou des nouvelles manières de faire un truc très bon. Et finalement, pour moi, le fait d'être ce qu'on appelle zéro déchet, c'est assez logique, en fait. C'est même pas un sujet pour moi. C'est vrai que, on en parle beaucoup, mais c'est même pas un sujet parce que ça fait partie de mon métier d'utiliser les produits à 100% et ça fait partie du métier de cuisinier. Donc, voilà.
Vous dites d'ailleurs, je ne suis pas une cuisinière innovante.
Bah, je suis pas une cuisinière innovante, en tout cas sur la partie zéro déchet, parce que c'est pas moi qui ai inventé le fait qu'il fallait utiliser à 100% un produit. C'est tellement logique de pas jeter de la nourriture à la poubelle. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit ne jette pas de la nourriture à la poubelle. Donc j'ai pas inventé le fait qu'il fallait pas jeter des produits à la poubelle. Par contre, j'ai adapté certaines techniques à une cuisine de 2020. Ben voilà, je suis une jeune femme en 2020 et donc du coup j'ai la cuisine qui va avec mon époque aussi. Et c'est vrai que du coup c'est une cuisine qui est plus végétale, qui est à la fois gourmande mais quand même assez travaillée. Il y a beaucoup de sauces parce qu'on a un retour aux sauces en ce moment, c'est ça qui est à la mode et c'est ça qu'on aime bien. On aime aussi beaucoup l'acidité. Et puis je cherche à trouver des nouvelles techniques qui font que ça va être vraiment bon et cool, quoi.
Et en même temps, vous êtes en train de faire mijoter là sur sur la cuisinière votre petite joue de bœuf, donc vous n'êtes pas une anti-protéine non plus.
Ah, je suis pas du tout une anti-protéine. Après, ça dépend. Les protéines, c'est les protéines animales. Moi, je pense qu'on en a besoin, et puis je pense que c'est un produit. Enfin, voilà, j'adore la viande. Après, c'est effectivement en consommer moins. Hier, on a mangé végétarien. On a mangé une super soupe avec des petites noix. Gaëlle aime pas trop les girolles, mais moi, je me suis fait sauter des girolles. Et après, on a mangé un gâteau aux pommes. On n'a pas mangé de viande hier soir. Et puis ce midi, on va manger une joue de bœuf. Donc, on essaye de manger moins de viande. La joue de bœuf, je l'ai achetée chez le boucher. Je fais aussi travailler. Mais les commerçants de quartier, je sais que lui. Vu la tête de sa joue de bœuf, c'est lui qui a été la dépecer sur une carcasse directement. Je lui fais confiance pour l'avoir bien sélectionné. Et je pense que c'est surtout ça, en fait. L'important, c'est pas le fait de manger de la viande le problème, c'est de manger de la viande qui a été mal produite.
Vous boycottez le temple des produits industriels ?
Ben, les produits industriels, oui, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on. on peut plus genre, cautionner ce type de consommation là parce que déjà au niveau environnemental c'est une catastrophe, au niveau de la santé c'est pas gérable, au niveau de l'être humain on exploite aussi des êtres humains pour produire toute cette nourriture là, enfin il y a rien qui va d'un bout en bout de cette ligne industrielle, il n'y a rien qui va en fait. Et du coup, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à manger à trop gras, trop sucré, trop transformé avec des produits qui sont pleins de pesticides, où on respecte ni la terre, ni les hommes, ni les cours d'eau qui sont autour, ni rien du tout. Et tout ça pour finir avec des maladies cardiovasculaires. Et des cancers 20 ans plus tard, et encore 20 ans, je suis gentille, donc c'est pas possible.
Vous êtes une adepte des circuits courts. Effectivement, avec la crise en ce moment, on a l'impression que les Français se dirigent plus vers directement les producteurs que peut-être dans les supermarchés. Après, tout est une question de prix aussi.
Tout est une question de prix. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement une partie de la population qui tend beaucoup plus vers les petits producteurs et c'est génial. Mais je trouve aussi que, en fait, ces derniers temps, il y a beaucoup de culpabilisation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilisation. Et du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui tendent beaucoup plus à... non, mais en fait, ils commencent à me gonfler avec leurs histoires de fruits et légumes, machin. Moi, j'en ai rien à faire. Je vais continuer à manger des chips et des sandwichs triangles. Donc, en fait, il y a un peu... Je trouve qu'il y a de plus en plus d'écart et qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux parce que on peut pas passer de la malbouffe que du circuit court en étant presque végétarien voire vegan. En fait, il faut passer quand même des étapes, sinon on s'en sort pas. Et je pense que la culpabilisation amène les gens à dire ok bon vas-y je laisse tomber parce que c'est trop compliqué. On a vu d'ailleurs depuis qu'il y a le mouvement vegan qui a vraiment repris à fond du service. La consommation de viande a baissé depuis début 2010 petit à petit et je crois que c'est en 2017 mais en gros elle est repartie à la hausse un petit peu de ras-le-bol genre vous me saoulez les véganes du coup je vais aller me faire une grosse côte de bœuf. Déjà ça c'est un point.
C'est plutôt bien aussi pour défendre les producteurs de viande.
Défendre les producteurs de viande, oui. Le problème, c'est que repartir à la hausse, c'est la qualité de la viande qu'on mange qui est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pas contre manger de la viande. En revanche, je suis contre manger des volailles qui sont entassées dans des cages immondes, des porcs parqués qui peuvent à peine bouger.
Vous êtes pour de la viande labellisée ?
Je suis pour de la viande labellisée, oui, et puis je suis pour aussi des éleveurs rémunérés correctement. Et là, on en vient au prix. C'est-à-dire que quand on achète un poulet à 5 euros le kilo, en fait, l'éleveur n'est pas payé. Il est subventionné par l'État, donc il est subventionné par nous. Généralement, il y a 2 tonnes de produits antibiotiques. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc, résultat, c'est un poulet qui est à moitié malade, qui va nous rendre malade. C'est un poulet qui nutritivement est inintéressant parce qu'en fait, comme il a été mal élevé, il est plein d'eau et de mauvaises protéines d'une certaine manière. Et donc, du coup, on va forcément droit dans le mur. Si on consommait un poulet, au lieu d'en consommer tous les jours, si on en consommait une fois par semaine, mais de la bonne manière, et qu'on l'utilisait à 100% en mangeant toutes les parties du poulet, en faisant un repas d'abord avec le poulet rôti, en faisant un bouillon avec la carcasse, en récupérant éventuellement la chair pour faire des petites nems ou des petites pâtes sautées avec le petit poulet qui reste collé sur la carcasse et compagnie. En réalité, on a rémunéré un éleveur correctement, on s'est nourri correctement et on a fait un bon choix sur notre santé au long terme. Donc finalement, cette histoire de prix, pour moi, elle est juste sur le moment, c'est-à-dire que je suis parfaitement consciente qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas acheter un poulet à 18 euros le kilo. Mais c'est... un peu le... C'est le même problème avec les vêtements, en fait. C'est, est-ce que j'achète un t-shirt à 5 euros qui va me durer 4 machines à laver, ou est-ce que j'achète un t-shirt à 30 euros que je vais garder pendant 2 ans ? C'est exactement le même souci. Et sauf que là, on parle de notre santé et on parle aussi d'une industrie qui pollue énormément, à savoir, enfin, l'agroalimentaire, ça pollue énormément, et surtout, ça donne pas du tout envie à des gens d'aller faire de l'agriculture, et on va se retrouver avec, enfin, bref, y a rien qui va en fait dans ce système-là. C'est ça qui m'agace.
Chloé Charles, vous n'avez pas de restaurant pour l'instant, en tout cas, mais est-ce que vous êtes solidaire des restaurateurs actuellement avec cette crise sanitaire ?
Alors, j'ai pas de restaurant, j'ai un autre modèle économique qui est l'événementiel et les dîners privés, plus pour des entreprises, mais qui est un secteur qui est très touché aussi. Je suis forcément solidaire des restaurateurs, vu que les restaurateurs, ça fait seulement 4 ans que je suis plus dans la restauration, sur une carrière qui, pour l'instant, j'ai à peu près 15 ans de... Ça fait 15 ans que je suis dans le métier, et du coup, tous mes copains... pas tous, mais soit travaillent dans des restaurants, soit carrément ont des restaurants, donc je peux être que solidaire. Un restaurant, et notamment les restaurateurs que moi je connais, ils ne vendent pas seulement à des clients leur nourriture, ils font aussi travailler, il y a tout un écosystème derrière, il y a des vignerons, il y a des producteurs de viande, de poissons, de légumes, des fournisseurs de produits italiens qui sont des indépendants, enfin en fait on est vraiment un métier d'indépendant, donc on n'a pas comme des gros groupes de supermarchés par exemple des actionnaires derrière qui ont des sous à remettre sur la table c'est une profession qui est en danger et c'est la première fois depuis toute ma carrière que je me demande comment est-ce que ça va se terminer et si ça va pas être compliqué pour la première fois de ma carrière de éventuellement trouver du travail. J'ai jamais cherché de travail. C'est le travail. Il y en a partout dans la restauration. Il y a un nombre de postes à pourvoir qui est absolument incroyable. Et là, c'est la première fois de ma vie que je me demande. Ok, si jamais je dois chercher du travail, est-ce que je vais en trouver ? Cette crise est une catastrophe. Après, elle est une catastrophe pour tellement de secteurs. Je dirais à part les fabricants de gel hydroalcoolique, je vois pas qui est-ce qui est content de cette crise, quoi.
Vous avez envie d'ouvrir un resto un jour ?
J'avais pas envie d'ouvrir de resto avant cette crise, et là, j'en ai toujours pas envie. Après, je réfléchis à d'autres formes de restauration. Moi, j'aime beaucoup l'événementiel. Je trouve que c'est un... ça change tout le temps. J'ai des cahiers des charges qui sont tous les jours différents. J'aime cette liberté, et j'aime le fait de jamais... avoir de journées qui se ressemblent, donc je réfléchis à ouvrir une table d'hôte depuis assez longtemps, ou ce qui serait un local comme un restaurant, sauf que ça serait uniquement sur réservation et pour des tables de 12 personnes et plus.
Vous pensez que sans étoile, demain, vous pouvez devenir, vous, Chloé Charles, une chef de cuisine starisée ? Parce qu'aujourd'hui, les chefs de cuisine deviennent des stars. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
Je sais pas si j'ai envie d'être... starisée, en fait, c'est pas du tout mon objectif. Ça, c'est sûr. Mon objectif... et d'ailleurs, il est potentiellement atteint, en fait. Mais maintenant, justement, mon deuxième objectif, c'est le fait que ça dure. Mon objectif, c'est de réussir à m'éclater dans mon métier et de continuer à ne pas avoir l'impression de travailler. Et d'avoir une entreprise qui marche, petit à petit, de la faire grandir, de pouvoir petit à petit embaucher des gens, avoir des personnes qui me rejoignent. Gaëlle, ma femme, m'a rejoint en janvier. Bon, du coup, c'est un peu mis entre parenthèses entre le Covid et le bébé, mais elle est sommelière, elle a une vision géniale du métier, et voilà, c'était une première étape pour développer mon entreprise. Il y en aura. Voilà, on va petit à petit travailler à pouvoir faire grandir, à pouvoir faire grandir Chloé Charles Cuisine. Mais finalement, la médiatisation, pour moi, elle est importante pour faire passer un message et pour pouvoir effectivement exister dans ce métier. Et puis, je pense qu'on est aussi dans une société où on communique énormément. On communique énormément en solo. Je veux dire, Instagram, c'est devenu une espèce d'énorme page de pub un peu cool, mais voilà, c'est pour moi, ça fait partie du métier. Et puis, c'est un moyen de faire passer un message fort, notamment sur l'écologie et sur la manière dont on consomme, en appelant à ne pas aller, par exemple, au supermarché ou à consommer local ou à utiliser à 100% son produit et compagnie. Mais je n'ai pas spécialement envie d'être une grosse resta.
Mais quand même un peu écolo.
Ah bah oui, complètement écolo. Mais ça, pour moi, en fait, avoir entre 30 et 35 ans en 2020 et ne pas être écolo, pour moi, c'est une hérésie. Enfin, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut pas ne pas être écolo quand on a entre 30 et 35 ans, qu'on prévoit potentiellement d'être parent. Enfin, voilà, c'est une évidence pour moi d'être écolo. On peut pas fermer les yeux et se dire que c'est cool de surconsommer aujourd'hui. Enfin...
Vos parents sont fiers de votre parcours ?
Oui, je pense qu'ils sont fiers, oui, enfin, je pense même, je suis sûr, quand mon père se promène dans les salles des restaurants où j'ai travaillé en disant « c'est ma fille », c'est que je pense qu'il est fier. Mais il le faisait déjà quand j'avais 2 mois, quand il était à la caisse du supermarché en disant « c'est ma fille ». Donc je pense que oui, ils sont fiers de moi. Je pense qu'ils sont fiers parce que je suis indépendante en fait et que je fais ce que je veux. Ils sont fiers de la liberté que j'ai. Et pour moi cette liberté elle est extrêmement importante.
Merci Chloé Charles, merci pour le café, pour cet entretien.
Mais de rien du tout, ça me fait très plaisir.
Merci à David Führer pour la réalisation et à Jean-François Montpas pour le mixage de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le podcast Experte à la Une est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Je compte sur vous.